say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. No, 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 no.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Second Life. Avec moi, Adrien, Camille, Valentin, Flavie, Morgane, Enzo, Elliot, Dylan et Valentin, et moi-même, Étienne. Aujourd'hui, Adrien va commencer par nous parler de la Grèce.
Oui, alors hier, la population de la Grèce a décidé d'élire la gauche radicale aux élections législatives. Le parti anti-austérité Syriza obtiendrait entre 35 et 40% des voix. Ils ont remporté une victoire historique qui va entrer dans l'histoire de la Grèce. Et la nouvelle démocratie du Premier ministre a été largement devancée.
Oui, surtout qu'ils voulaient donc une majorité absolue pour pouvoir réaliser leur programme. Sachant que là, pour l'instant, c'est que 35 à 40%, il leur manquerait peut-être 1% pour avoir la majorité absolue, enfin dans ces alentours-là, sachant que donc du coup ils seraient dans une position de coalition. C'est un programme qui porte plutôt sur des propositions à basse échelle, si vous voulez, puisque ce qu'il a proposé lors de ces élections, c'est ce qu'il avait proposé une fois élu, notamment aux élections départementales, enfin régionales de leur système, puisqu'ils proposaient notamment de donner donc de l'argent pour qu'ils puissent payer leur logement, donner de l'argent pour qu'ils puissent prendre au moins une douche par semaine, pour payer leur nourriture, pour donc c'est pour l'instant des propositions à basse échelle. En termes de propositions à haute échelle, je pense que pour l'instant il n'y a aucune aperçu par les Grecs et pour les autres, donc ça viendra sûrement petit à petit, sachant qu'il y a pas mal de réformes pour l'instant mises en place et en attente par notamment le parti de la nouvelle démocratie largement battu. Puisqu'ils n'ont fait que 25%, et le troisième, c'est le parti d'extrême droite grecque. Donc voilà. Par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que la Grèce va rester dans l'Union européenne ou non, puisque c'est un parti qui veut partir de l'Union européenne sans trop finalement y partir, en fait. C'est un peu compliqué, puisque ils sont sur des. C'est un peu complexe, voilà.
Ils veulent surtout une autre Europe, en fait.
Oui, c'est ça. C'est en fait ils veulent y être sans y être.
Ils veulent rester dans l'Europe, mais ils ne veulent plus l'austérité, en fait. Voilà, imposée par la Troïka, qui est la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI. Voilà, qui leur impose en fait un plan d'austérité. On peut signaler des chiffres, hein, puisque tu parlais. Voilà, un Grec sur quatre est au chômage. Un salarié sur deux gagne moins de 700 euros par mois. Un quart de la population est sans sécurité sociale, le PIB a chuté de 25% et la dette a explosé, puisqu'en 2011 elle atteignait 120% du PIB et elle est aujourd'hui à un niveau record de 175%.
Et tous ces chiffres, ça vous inspire quoi, vous les secondes?
Le néant.
Ça a l'air compliqué pour remonter la pente, surtout que depuis l'événement qui s'est passé au niveau des élections en Grèce, l'euro est passé à 1,11$, ce qui est un record cette fois.
Il est même plus question de remonter la pente pour les Grecs, puisque de toute façon, ils remonteront jamais la pente budgétairement, sachant qu'en plus, on leur prête de l'argent, mais ça n'a aucun intérêt, puisqu'on leur met un taux d'intérêt à 9,9%. Donc comment vont-ils rembourser, déjà qu'ils ont de grosses dettes, qu'on leur donne de l'argent, alors sachant déjà qu'on sera jamais remboursé, et en plus de ça on leur met des taux d'intérêt à 9,9% qu'ils n'arriveront jamais à assumer.
En fait ils veulent qu'on annule la dette, leur dette en fait.
Et c'est ce qui se passera à un moment donné ou à un autre.
Vous serez d'accord, vous, pour annuler leur dette?
Bah oui.
Oui, parce que la Grèce est quand même importante au niveau touristique.
Oui, mais l'argent qu'ils doivent, c'est notamment notre argent,
oui,
l'argent des autres pays.
Mais de toute façon,
on
sait très bien qu'on a donné beaucoup trop de versements de toute façon à la Grèce, 300 millions par là, 300 millions par ci.
Non, je te rappelle que la part d'aide donnée a été de 240 milliards.
Oui, non, mais voilà. Je parle après, c'est par
donc,
pays.
Donc, en fait, ils n'en ont pas vu la couleur, en fait. Voilà.
De toute façon, c'est de l'argent qu'on ne reverra jamais. Et donc, plutôt que de parler, autant réduire leurs dettes, parce que ça permettra aussi au pays de repartir de nouveau, plutôt que de rester comme ils le sont. Donc,
Mais en même temps, il faut savoir qu'il y a des personnes en Grèce qui prennent la retraite à l'âge de 50 ans. Et nous, on va devoir y bosser jusqu'à 67 ans, voire vous, peut-être encore plus. Vous trouvez ça juste, vous ?
Bah, certes, c'est pas très juste. Maintenant, après, on voit nos conditions à nous, leurs conditions à eux au niveau de vie. Personnellement, moi, je préfère vivre, peut-être travailler plus longtemps, mais vu les conditions que nous avons au niveau de vie, le confort et tout ça, je préfère largement ça. On travaillera peut-être quelques années plus, mais après, c'est le résultat final qui compte.
Enfin, le résultat final, il n'est pas forcément toujours excellent à la fin, puisqu'il y a des retraités aujourd'hui qui ont travaillé pendant des années et qui touchent pas plus finalement que ce qu'ils espéraient au départ.
C'est bon. on va parler sport maintenant avec Valentin et Dylan.
Mais alors, en ce moment, c'est la 24e édition du championnat du monde de hand masculin qui a commencé le 15 janvier 2015 et qui se finit le 1er février. La compétition a lieu au Qatar. Cette compétition qui réunit les meilleures sélections nationales est organisée par la Fédération internationale de hand. Et le Qatar l'accueille pour la première fois de son histoire. L'équipe d'Espagne remet son titre en jeu alors que 5 pays étaient candidats pour l'organisation des championnats du monde. La France, la Pologne, l'Autriche, le Qatar et la Norvège.
Donc par rapport aux modalités de groupe et des qualifications, donc en Europe il y avait 13 places auparavant, maintenant 15, dû à des abandons et des forfaits de certaines équipes, je vais vous en parler. En Asie donc il y avait 3 places, ils sont passés à 2 places, plus une pour le Qatar qui est pays hôte donc. En Afrique donc 3 places, Amérique, les équipes américaines 3 places et en Océanie il n'y a plus que 0 place. Donc c'est-à-dire aucune équipe. Donc les équipes qui participent, le Qatar notamment pour leur 4e participation, équipe composée que d'étrangers quasiment, donc aucun Qatarien de sang. Donc voilà, c'est que des personnes qui ont été nationalisées Qatariens récemment. L'Espagne tenante du titre donc pour sa 17e participation, la France pour sa 19e participation, le Danemark pour la 20e, et le Danemark, non, ce n'est pas lui qui a le plus de participation, puisque là, c'est la Suède avec 21 participations. Et puis ensuite, il y a la Croatie, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, 3e du championnat d'Afrique 2014, puisque le vainqueur, c'était l'Algérie, l'Iran, la République tchèque, la Russie, l'Autriche, la Pologne, la Biélorussie, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, l'Argentine, le Brésil, le Chili, l'Allemagne qui a été invitée, l'Islande qui a été repêchée et l'Arabie Saoudite qui a été repêchée dû aux abandons du Bahreïn, de l'Émirat Arabe Uni et de l'Australie. Donc la modalité de groupe, donc il y a 24 équipes qualifiées qui sont réparties en 4 poules de 6 équipes. À l'issue de ce tour préliminaire, les 4 premiers de chaque poule se qualifient pour les 8e de finale. Ce qui se passe en ce moment, donc les 8e de finale, notamment avec donc la qualification du Qatar hier et d'autres résultats dont vous parlera Valentin. On retrouve un système classique de coupe. Donc le tirage de composition des groupes a eu lieu le 20 juillet 2014. Donc dans le chapeau 1, il y avait l'Espagne, la France, le Danemark, la Croatie. Le chapeau 2, Pologne, Suède, Slovénie, Bosnie. Chapeau 3, Russie, Qatar, Macédoine, Algérie. Chapeau 4, Argentine, République tchèque, Biélorussie, Autriche. Chapeau 5, Tunisie, Égypte, Brésil, Arabie Saoudite. Et dernier chapeau, Allemagne, Chili, Islande, Iran. Et donc je laisse la parole à Valentin pour vous parler des résultats.
Les premiers 8e de finale ont eu lieu hier, où le Qatar s'est imposé 29-27 contre l'Autriche. La Slovénie a battu la Macédoine 30-28. Le tenant du titre, l'Espagne, bat la Tunisie 28-20, la Croatie bat le Brésil 28-25, et aujourd'hui les autres huitièmes de finale avec la France qui accueille l'Argentine, l'Islande contre le Danemark, Pologne, Suède et Allemagne-Égypte.
Passons à un autre type de sport avec le rallye automobile d'Enzo et d'Eliott.
Donc dans les derniers jours, si vous avez suivi l'actualité sportive, il y a eu le rallye de Monte-Carlo. avec la victoire de Sébastien Ogier. C'est la troisième victoire sur le rallye de Monte-Carlo. Et le champion du monde 2015 démarre sur les bases de 2014. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le troisième succès de Sébastien Ogier sur ce rallye, après 2009, 2014 et donc 2015. Donc, Toliot.
Donc au classement final, Sébastien Ogier finit premier. Deuxième, Latvala sur Volkswagen Polo, les deux. Troisième, Mikkelsen sur Volkswagen Polo aussi. Quatrième, Otsberg sur Citroën DS3. Cinquième, Neuville sur Hyundai. Sixième, Sordo sur Hyundai. Septième, Evans sur Ford Fiesta. Et huitième, Loeb sur Citroën DS3. Au classement des pilotes, Ogier premier, deuxième Latvala, troisième Mikkelsen, quatrième Osberg, cinquième Neuville, sixième Sordo, et septième Loeb. Au classement des constructeurs, Volkswagen premier, deuxième Hyundai, et troisième Citroën et Ford.
Morgan, tu vas nous parler de la folle journée de Nantes.
Oui, donc la folle journée de Nantes, c'est un festival qui dure du 28 janvier au 1er février 2015. Donc le thème cette année, c'est les passions de l'âme et du cœur. Donc c'est un festival de musique classique conçu par la CREA. Donc la CREA, c'est la communauté de l'agglomération Rouen-Elbeuf. Et donc ce festival a été créé depuis 1995. Et donc le thème, passion de l'âme et du cœur, va parler de l'époque baroque du XXe siècle.
Un autre festival avec Flavie qui va nous parler de la Japan Tour.
Oui, la Japan Tour Festival, c'est un événement à pas rater cette année. Il y a trois bonnes raisons de venir à cette expo. La première, c'est que déjà, c'est le plus grand salon de la région de Tours. C'est l'occasion unique de passer deux jours et demi entre passionnés du Japon avec de nombreux exposants de tous les horizons. Il y aura également un cosplay. C'est un défilé qui consiste à s'habiller en imitant le style vestimentaire des Japonais. Deuxièmement, il y a des animations pour tous. C'est un salon où on a l'opportunité de participer aux nombreux ateliers comme l'origami, la cuisine, et de rencontrer des personnalités afin de découvrir la tradition japonaise. Pour les passionnés du manga, cosplay, karaoké et jeux sont au programme. Et pour ceux qui aiment le geek, il y a des spectacles, des jeux vidéo et d'autres surprises à ne pas manquer. C'est aussi l'occasion de faire des rencontres exceptionnelles. La Japan Tour Festival vous offre des moments d'exception avec des invités d'exception. La Japan Tour Festival se déroulera le 20, 21 et 22 février 2015. L'entrée est gratuite le vendredi 20. Sinon, c'est 10€ pour les visiteurs, 17€ pour les deux jours. Et 29€ pour la passe VIP. Pour plus d'informations, il faut aller sur le site officiel des événements de la ville de Tours ou sur le site www.japantourfestival. Site officiel.
Quelqu'un lit des mangas ?
Non, pas du tout.
Oui, bah oui, moi. J'ai des mangas.
Et pourquoi tu en lis ?
Bah, j'aime bien, c'est simple à lire et puis. Il y a plein de sortes de mangas. Et toi, tu en lis ?
Oui, j'en ai lu quelques-uns.
Comme quoi ?
Naruto.
Ah oui.
Pourquoi t'en lis ?
Parce que c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir les mangas en 5e.
Alors justement, aimez-vous les mangas ?
Non, pas spécialement.
Pas pour moi.
Non. C'est pas quelque chose qui me tente. C'est pas quelque chose qui va me passionner, mais c'est original.
Non, pas du tout. Je préfère un bon bouquin plutôt qu'au manga.
Moi, c'est un. Je trouve que c'est plutôt un univers intéressant, mais c'est pas quelque chose que j'accroche forcément.
Moi, j'en lis jamais, donc j'ai jamais appris à aimer en fait.
Mais tu devrais essayer. C'est pas mal. Moi, c'est facile à lire, donc. Puis je pense que t'aimerais bien, Adrien.
Il y a pas mal d'images.
Il y a du foot dedans.
Moi, j'aime pas les dessins animés manga et je ne suis pas intéressé non plus par les livres. Désolé, ça ne fait pas l'unanimité dans cette émission, malheureusement.
Tout de suite, Camille et Valentin qui vont nous parler donc des Sims.
Et oui, parce que le jeu vidéo des Sims a une grande exposition à Paris les 4 et 5 février prochains. En partenariat avec Geek Art et French Paper Art Club, les nombreux fans des Sims ainsi que le grand public pourront découvrir 15 œuvres sur l'univers du célèbre jeu vidéo de Will Wright, le créateur de SimCity, donc à l'occasion d'une exposition d'œuvres Geek Art à Paris, donc comme je l'ai dit, du 4 au 5 février prochain. L'exposition anniversaire des Sims sera gratuite et se déroulera pendant 2 jours à l'espace Opidium à 30 rue de Picardie à Paris, de 10h à 18h. Electronic Art annonce que cet événement présente la rencontre des Sims et de l'art à travers des œuvres réalisées par des artistes internationaux.
Donc pour tenter de mettre l'eau à la bouche à certains fans et surtout en guise d'avant-goût, les organisateurs de l'exposition des Sims ont décidé de partager 3 œuvres qui seront visibles à l'événement célébrant les 15 ans de la licence des Sims. Donc ces œuvres ont été réalisées par Glenn Brogan, un artiste américain bien habitué à la pop culture, Grégoire Gilmin, connu par sa série Secret Lives of Heroes, et Yann Wildling, illustrateur canadien passionné de jeux vidéo et habitué à la pop culture.
Alors, je suis quand même hermétique, je ne sais pas ce que c'est les Sims, va falloir que tu m'expliques.
Les Sims, c'est... je sais pas comment on peut appeler ça, mais... c'est un jeu vidéo, mais il est pas comme les autres, il est...
On peut créer sa propre personnage virtuel et se créer sa propre vie dedans, avec sa maison, redécoration, famille, tout ça. Ouais.
Ça fait des années que ça existe, ce serait pas un peu démodé?
Non, pas du tout, parce que moi, en fin de compte, plus ça va et plus justement ils innovent avec les nouvelles versions et ça se vend toujours autant, parce que je crois que j'ai vu des chiffres qui restent stables, qui diminuent pas et qui augmentent pas, donc ça va. Il y a toujours des fidèles.
Intéressant à savoir.
Mais il y a une vidéo qui a été faite justement, c'est des youtubeurs, ouais. Ils ont fait une vidéo pour critiquer comme quoi est-ce que ceux qui jouent trop aux Sims, est-ce qu'ils ont une vie sociale ou quoi ? Parce que justement... ils font toute leur vie sur les Sims et du coup ils sortent jamais de chez eux, donc ils ont fait une vidéo drôle comme ça pour critiquer un peu ça, quoi. Bon, après je dis pas que tout le monde a une vie sociale, oui, voilà, c'est ça, no life. Juste...
voilà. D'accord.
Donc vous les second life, vous êtes pas des no life, donc
on est encore sociable.
Tout à fait, oui. Moi, je vais vous parler du 42e festival de la bande dessinée d'Angoulême, donc qui se déroulera du 29 janvier au 1er février. Sur place, il y aura beaucoup d'animations, telles que des improvisations de théâtre avec le groupe de la série, je ne sais pas si vous connaissez, HeroCorp. Non,
pas du tout.
Avec Alexandre Astier, Simon Astier. Non, d'accord.
Qu'est-ce
C'est une série web plutôt, où des gens se prennent pour des héros. Voilà. Il y aura aussi un concert de blues. Les tarifs pour un jour, donc c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Pour les 10-17 ans, c'est 11€, les adultes 15€. Pour les 4 jours, pour les moins de 10 ans, c'est toujours gratuit. Pour les 10-17 ans, c'est 24€. Pour les adultes, c'est 31€. Il y a également des prix de billets de la SNCF qui sont mises en place donc pour ce festival.
Alors, festival de la BD, vous n'êtes pas trop manga, si j'ai bien compris, dans le groupe, mais est-ce que vous êtes grand liseur de BD ? Lecteur de BD.
Je ne lis pas non plus des BD.
J'adore les bandes dessinées.
Pourquoi ? Explique-nous pourquoi.
Parce que depuis tout petit j'en lis, donc du coup j'étais habituée à en lire et je trouve que l'idée des vignettes avec des dessins, une histoire qui suit en images, je trouve ça sympa.
Même chose qu'Étienne.
Grand lecteur non, mais je lis que de temps en temps des BD.
Certaines BD me plaisent bien, après d'autres ça dépend de ce qu'ils parlent, de leur histoire, mais les BD sont assez intéressantes.
Et pour vous, quelle différence entre lire un BD et lire un livre ?
Ah, c'est différent.
Une BD, c'est moins chiant.
Sur une...
Ça, c'est du fond du cœur.
Il y a des images, il y a tout ça.
C'est moins long. Il y a des
images. Le livre, au moins, ça nous permet d'inventer ce qu'on veut derrière le personnage, comment le choisir, le personnage. Enfin, savoir comment le décrire, c'est nous qui choisissons et pouvoir continuer après, même si on n'a pas fini le livre, de continuer la suite dans notre tête et puis qu'on le lira, voilà, voir si ça correspond à notre scénario ou non. Que la BD, ça nous impose directement l'histoire, ça nous impose l'idée même de l'histoire.
Le livre s'étend à pas mal de sujets. Quand on parle de livre, vous parlez d'un documentaire ou d'un roman.
Bah, plutôt, après, je pense plutôt roman, parce que c'est vrai, comme dit Morgane,
aujourd'hui, un livre, ça peut être une autobiographie, ça peut être, c'est plein de choses, un livre.
Oui, mais un livre pour ados, c'est pas forcément des documentaires, c'est plus des romans ou des BD ou des mangas, je sais pas.
Ça veut rien dire, je lis des documentaires.
Ah, bah. Il y a certains, oui, oui, il y en a moins quand même, qui les aiment, des documentaires.
Un documentaire peut être très intéressant.
Moi, j'aime pas.
Ça dépend le sujet.
Oui, voilà, ça dépend.
Ça nous donne du savoir au moins.
Ce sont les documentaires de foot que tu lis.
Oh, foot, sport,
politique. Parfois, oui, politique. Mais pour moi, documentaire, c'est nature, donc j'aime pas trop. Nature ou volcan ou je sais pas quoi. Truc. Voilà.
Oh non.
Tu as envie de parler de sujet, Camille? Je te laisse, hein, je t'en prie.
Voilà, donc c'était Second Life sur Fréquence Sillé 97.9 FM. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
You said no, 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 I said no, 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, no, no.